Faut carrément faire une
transition.
Une transition avec l'intervention suivante de Jean-Pierre Guélantaine du MNCP.
C'est très relatif, hein, effectivement. Moi, j'ai envie de dire aussi, là, il prévoit des sanctions sur 3 mois, puis 6 mois, voire 1 an. Quand la NPE ne donne pas d'offre à la personne en face, est-ce qu'on prévoit des sanctions pour la NPE? Exemple, nous, on rencontre... Dans les organisations de chômeurs, on rencontre des gens, il y a des témoignages de gens qui n'ont jamais d'offre d'emploi, c'est légion, c'est même la majorité. Donc il faut quand même prendre ça en compte, effectivement. Donc je vais repartir effectivement sur l'offre offre valable, convenable, acceptable, raisonnable, on en est au 4e terme, je crois, depuis le début. Apparemment, ça va donc être vu en Conseil des ministres demain. Ils vont essayer de définir ce qu'est une offre raisonnable. Et donc, on a voulu aussi se pencher là-dessus dans le collectif. Et puis, je voulais préciser aussi que nous, ça nous semble important de participer à ce collectif en tant que mouvement de chômeurs, les autres mouvements de chômeurs aussi d'ailleurs. C'est que nous, on ressent beaucoup les choses, mais on n'a pas forcément des chiffres, des statistiques, des choses à mettre en face. Mais on ressent, en tout cas, les comportements des chômeurs, on le ressent bien au sein de nos associations, sachant que on est confronté tous les jours, toutes les semaines avec des chômeurs. Tous, on est issus du chômage aussi. Et donc, il y a des ressentis qu'on a. Et ce collectif a permis de poser un certain nombre de choses à travers des chiffres ou des réflexions, en tout cas. Donc je pensais aussi important de dire quand même que derrière tous ces chiffres, le chômage est quand même vécu comme une mise à l'écart et occasionne de réelles souffrances pour les personnes. Ça, on constate aussi, hélas, tous les jours. Et qu'il y a des chiffres, mais il y a aussi des gens derrière les chiffres. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Et que toutes ces conséquences peuvent s'avérer très problématiques, voire dramatiques, en termes de revenus, de pouvoir d'achat. Et derrière chaque chômeur, il faut imaginer qu'il y a aussi des familles, des enfants, et qu'on ne peut pas réagir que par rapport à des chiffres ou à des taux, mais qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect humain des choses. Et aujourd'hui, les pratiques font qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations très problématiques, voire insolubles, d'impayés, de surendettement. Et c'est beaucoup lié aux pratiques, je dirais, de l'administration, ou en tout cas de la NPE au niveau du chômage. Alors, on est bien dans un système qui vise à systématiser les sanctions à l'encontre des chômeurs. Et ça se situe dans la continuité du décret Borloo de 2005, parce que toutes ces sanctions étaient déjà en place, hein, étaient déjà prévues, mais qu'on a beaucoup de mal à rendre effectif du fait du manque d'emploi, tout simplement. Donc, dans un contexte de chômage massif, de sous-emploi et de précarité croissante, cette logique vise donc à faire croire que le comportement des chômeurs est la question centrale. Et donc, ce diagnostic déplace la responsabilité de la persistance du chômage sur les chômeurs eux-mêmes. Pourtant, toutes les enquêtes montrent qu'il est totalement faux de dire que les chômeurs s'installent durablement dans l'inactivité et qu'au contraire, leur principale préoccupation est de retrouver un travail. Il est bon de rappeler aussi qu'aujourd'hui, moins de la moitié des chômeurs perçoivent une indemnisation. Donc, le problème central n'est donc pas de s'installer durablement dans l'inactivité. Le problème est qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tous. On l'a dit tout à l'heure, hein, 70% des offres correspondent à des emplois précaires à durée déterminée d'une durée moyenne d'un mois et demi. Il y a une chose aussi, c'est qu'on voit toujours les chômeurs comme un ensemble figé. Il y a quand même un salarié sur deux qui passe par la case chômage. Il y a un turnover quand même rapide, et heureusement, quelque part. Et donc, il faut peut-être aussi arrêter de considérer les chômeurs comme un ensemble de personnes figées. C'est vraiment un volant de chômeurs, et ça tourne. Et beaucoup de salariés, de plus en plus, vont être appelés à passer par la case chômage. C'est pour ça que c'est un vrai problème pour l'ensemble de la société. Sur l'offre raisonnable d'emploi, alors, on est déjà étonné sur le fait que, avant même que soient définis des droits supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, par exemple indemniser ceux qui ne le sont pas, on commence la renégociation de l'assurance chômage par de nouveaux projets de sanctions en direction des chômeurs. Alors, les 5 centrales syndicales de salariés ont manifesté leur opposition à ce projet. Résultat des courses, le gouvernement a décidé de passer outre et de légiférer pour rendre effectif cette offre raisonnable d'emploi. L'État s'arroge donc l'initiative de l'approche disciplinaire au mépris de la négociation entre partenaires sociaux. Sur la logique de l'assurance chômage, elle est bien loin et pourtant de nature contractuelle. Les chômeurs susceptibles d'être sanctionnés ont versé normalement leurs cotisations dans un cadre juridique qui prévoyait des prestations en contrepartie. Le contrat de travail, forme juridique de la relation salariale dans toute société libre, doit impérativement recueillir la volonté du salarié. Le menacé de sanctions au cas où il refuserait une offre valable d'emploi est pour le moins empreint d'une grande subjectivité et représente une atteinte grave à cette liberté fondamentale. Le contrat de travail lie bien deux parties ensemble, qu'une tierce personne vienne mettre son nez quelque part dans la légitimité même du contrat de travail est inacceptable en l'état. Alors, on pense aussi qu'il doit être compris et accepté que les chômeurs refusent ce type d'emploi et poursuivent leur recherche d'un emploi à temps plein en CDI, leur permettant de vivre décemment, de faire des projets de vie, de se projeter dans le temps. Pour que le salarié engage sa personne dans le travail, cela suppose que le travail ait un sens pour lui, qu'il en ait une représentation positive. Nier cette dimension conduit à un retour à une conception servile du travail. Alors, une autre conséquence de ces sanctions, c'est une modification avérée du comportement des chômeurs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Faute d'indemnisation et du fait de cette pression constante, nombreux décident de ne plus solliciter le service public de l'emploi, alors que par définition, le rôle d'un véritable service de l'emploi serait bien de s'adresser au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui font que les gens ne vont plus vers l'NPE, décident de trouver du travail par eux-mêmes. C'est vraiment des pratiques qui amènent à des comportements. Alors, cette pression indirecte, il nous semble qu'elle atteint l'ensemble du salariat, dans le sens où cette offensive participe, certes, à la stigmatisation des chômeurs, mais participe aussi au fait de baisser artificiellement le chiffre du chômage et peser à la baisse sur tous les salaires. Forcer des personnes à accepter des emplois rémunérés jusqu'à 40% de moins que leur précédent salaire est quelque part un puissant mécanisme de pression à la baisse sur les salaires. Cela accentue la concurrence entre chômeurs et salariés sur le marché du travail, en particulier pour les emplois les moins qualifiés. Et plutôt qu'à résorber la frange des emplois mal payés, aux conditions de travail souvent dégradées, cette politique conduirait ou conduit à les pérenniser en contraignant des personnes à les accepter, à les occuper. Il s'agit bien d'une dévalorisation du travail, d'un abandon d'exigence en termes de qualité de l'emploi. De la même façon, la garantie d'un salaire minimum instauré par le SMIC n'arrête pas d'être décotée. Et le montant des allocations chômage est en train de devenir une sorte de norme salariale, assurant une main-d'œuvre disponible grâce à la pression exercée. On est en train de détricoter le SMIC et partir sur une norme beaucoup plus faible par cette pression continue. On peut être amené dans certaines situations à devoir accepter des réorientations professionnelles. Par contre, croire que la sanction soit le moteur le plus efficace de cette réorientation est une conception triviale de l'insertion professionnelle. La condition essentielle est l'ouverture de l'espace des choix. Le choix nous semble primordial et important, que ce soit le choix du travail ou le choix de la formation. Et l'accompagnement devrait au contraire prioriser cet objectif, cette possibilité de choix. De même, abaisser les niveaux des salaires ne résoudra pas la question de l'emploi en France, ne serait-ce que parce que cela fait baisser l'un des moteurs de la croissance économique, qui est la consommation des ménages. La politique selon laquelle le chômage serait la conséquence d'un coût de la main-d'œuvre trop élevé a été invalidée par toutes les expériences d'exonération de cotisations sociales qui ont été menées depuis une quinzaine d'années au sein des entreprises. Il n'y a pas eu d'évaluation probante sur le fait que exonérer les entreprises une partie de leurs cotisations crée de l'emploi. Il n'y a jamais eu d'évaluation probante de tout ça. Alors on prend aussi souvent un exemple le Danemark. Effectivement, c'est un modèle où la pression y est assez forte. Par contre, on oublie souvent aussi que en contrepartie, l'indemnisation y est très élevée et l'accompagnement renforcé de qualité. On compare souvent les pays sur leur taux de chômage, mais rarement sur l'accompagnement, sur comment et gérer l'accompagnement du chômeur, comment on favorise le retour à l'emploi. On parle souvent de flexibilité et de notre côté de sécurité. En France, on a utilisé beaucoup la flexibilité, mais très peu la sécurité de l'emploi, l'accompagnement, comment on sécurise les parcours. Donc, pour conclure, contrôler et sanctionner lorsque l'emploi fait défaut de notre fenêtre, c'est inacceptable, c'est de la communication, c'est aussi de la manipulation statistique quelque part, c'est opposer sciemment les privés d'emploi aux travailleurs, c'est rendre le chômeur responsable de sa situation, mais ce n'est pas répondre de façon responsable à la problématique du chômage et du travail précaire aujourd'hui.
Merci. Y a-t-il des questions?
Non, j'aurais simplement... Un jour, à la télé, j'ai entendu le président du Secours Populaire qui disait qu'à travers tout leur point d'accueil, à travers toute la France, c'est un Secours Populaire, donc quelque part caritatif, il voyait arriver de plus en plus de travailleurs pauvres. Je crois qu'il n'a pas dit par hasard. Hein.
Y a-t-il des réactions ou des questions?
Excusez-moi d'intervenir tout le temps, mais j'en profite juste pour dire que contre ces projets de flexisécurité, là, les deux projets de loi qui sont là déjà quasiment adoptés sur les attaques contre le contrat de travail et celui que le gouvernement va examiner demain, nous appelons tous les salariés en poste ou non à se mobiliser, notamment le 18 juin, peut-être aussi également le 19, et à signer une pétition qui se trouve sur le site www.pourdesdroitsnouveaux.org. Je voulais le dire parce que les syndicats n'ont peut-être pas assez informé et mobilisé contre ces projets de loi et contre l'accord du 11 janvier, signé par 4 syndicats. Et nous essayons, avec nos faibles forces, dans le collectif dont j'ai parlé, dont font partie plusieurs personnes de la CDC, nous essayons d'appeler à une mobilisation parce que, comme le disait Jean-Pierre Guénantaine, tous les salariés sont concernés.
Ok, je pense qu'on mettra le lien, s'il n'y est déjà, sur le site de la CDC. De toute façon, vous pourrez le récupérer à cet endroit-là. Oui, madame.
Le changement à l'INSEE qui a fait baisser d'un point le changement de définition du chômage, c'est quoi exactement?
Donc, on revient sur le thème d'accord. Non, c'est pas grave. Il y a deux changements. Il y a un changement méthodologique, au sens qui se traduit par le fait qu'on interroge davantage les gens, et notamment les personnes qui n'ont pas répondu dans un premier temps au questionnaire de l'enquête. Ce qu'on appelle dans le jargon statistique les non-répondants. Et donc, il se trouve que quand on interroge et quand on pousse, quand on fait des efforts très importants, c'est ce que fait l'INSEE, pour récupérer des réponses de la part de ces personnes non-répondantes, on touche davantage de personnes qui étaient en fait dans l'emploi que dans le chômage. Donc ça fait baisser un tout petit peu le taux de chômage, mais pas beaucoup, de 0,2 ou 0,3 points maximum. Le gros changement, c'est un changement de définition. C'est-à-dire qu'auparavant, l'INSEE, à la différence d'Eurostat d'ailleurs, et l'INSEE argumentait là-dessus à l'époque, considérait qu'être inscrit à la NPE constituait un acte positif de recherche d'emploi. Pour être chômeur au sens du BIT, il faut être évidemment sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé une heure, être disponible pour récupérer un emploi et avoir effectué des démarches, avoir recherché effectivement un emploi. Donc, auparavant, l'INSEE considérait que le fait d'être inscrit à la NPE était un acte positif de recherche. Désormais, il faut un acte supplémentaire qui peut être. Il y a toute une série de questions qui sont posées aux personnes. Ça peut être avoir écrit des CV, enfin bon, avoir fait d'autres actes positifs pour être considéré comme chômeur. Et ça, c'est le principal effet. Hein, ça fait baisser. Dans le 1 point, disons, ça explique les 3 quarts de la baisse du taux de chômage. Alors c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à une réponse, de moins en moins de chômeurs sont effectivement inscrits à la NPE parce que, entre autres, finalement, le service public de l'emploi, en tout cas la NPE, est de plus en plus perçu, ou tend à être perçu, comme un instrument de pression sur les demandeurs d'emploi. Et donc le fait qu'il y a encore 4 millions de personnes finalement qui restent inscrites à la NPE en soi, hein, et je rappelle que parmi ces 4 millions, il y en a la moitié qui n'ont pas l'indemnisation, donc en soi est vraiment un signe que les gens sont en demande d'emploi, et donc ça pourrait être considéré déjà comme un acte tout à fait positif. Et donc cette restriction qu'a apportée l'INSEE, on l'avait déjà à l'époque contestée dans le collectif au moment où ça avait été... Donc en novembre 2007, hein, quand l'INSEE avait publié... Et donc vous pouvez retrouver sur le site de la CDC, je pense, le petit communiqué qu'on avait fait à ce propos à l'époque.
À quoi il va servir le rapport du NIS maintenant que l'INSEE a déjà repassé à la lunette sur l'école?
C'est une bonne question à poser à son président, M. De Foucault.
Vous avez participé au groupe de travail, j'imagine que vous n'avez pas à cœur de simplement vous asseoir pour donner une caution à la politique, même à un groupe de travail dont le résultat final finirait sur une étagère. Enfin, je pense que
Nous, on continue à, comme vous le voyez, on continue à trépigner et à dire que ça ne va pas et qu'il faut arrêter de bidouiller sans arrêt les chiffres et qu'il faut produire des indicateurs crédibles et sérieux qui rendent compte de la situation réelle des gens. Voilà, on va continuer parce que malheureusement, il faut qu'on continue parce qu'on n'est pas suffisamment écouté par l'INSEE. Hein, parce que là, le problème, c'est surtout... Dans le rapport du CNIS, bon, dans le rapport de Foucault, il y a des choses intéressantes. Hein, il recommande, hein, vous verrez demain, il n'y a pas que des âneries, loin de là. Mais le problème, c'est que l'Institut, enfin, l'INSEE, en fait ce qu'il veut, d'abord, et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Et puis ensuite, surtout que, parallèlement à ça, il multiplie des initiatives vraiment malencontreuses qui brouillent complètement le paysage. Et là, il faut quand même signaler que l'INSEE a déjà annoncé qu'en 2011, c'est-à-dire un an avant l'élection présidentielle, ils vont « rénover » entre guillemets l'enquête emploi et introduire des innovations majeures dans l'enquête. On est extrêmement inquiet sur le sens de cette rénovation, parce que si ça continue comme ils ont fait jusqu'à présent, l'objectif de 5% ou même de 4% de chômage, il ne va pas être difficile à atteindre. Hein. Donc on est vraiment très inquiet de cette manipulation permanente des enquêtes, des sources, des questionnaires, des méthodes. Là, en ce moment, l'année dernière, l'INSEE a fait un effort considérable pour augmenter le taux de réponse à l'enquête emploi. Ça n'a aucun sens. On n'atteindra jamais un taux de réponse de 100%, on le sait très bien. On sait très bien que quand on augmente le taux de réponse, en faisant un effort artificiel, d'une certaine façon, par rapport aux méthodes habituelles, on modifie les chiffres, on modifie le résultat, puisqu'on sait que les premiers qu'on arrive à récupérer, les premiers non-répondants spontanés qu'on arrive à récupérer, c'est plutôt des gens suroccupés qui vont être beaucoup moins au chômage que les autres, etc. Donc plus on fait des efforts, dans un premier temps, on récupère des populations qui sont peu au chômage. Et donc on fait baisser le taux de chômage. Alors si on continuait encore l'investissement et qu'on arrive à des taux de réponse de 90-95%, là on toucherait sans doute d'autres populations qui sont justement des gens très éloignés, marginalisés, qui répondent plus aux enquêtes, quelles qu'elles soient, etc. Donc on ferait à nouveau baisser le taux de chômage. Donc ça n'a aucun sens d'augmenter le taux de chômage. Donc ça n'a aucun sens de vouloir augmenter le taux de chômage pour le principe. Ce qu'il faut, c'est avoir augmenter le taux de réponse, pardon, pour le principe. Ce qu'il faut, c'est avoir un taux de réponse stable qui permette de mesurer avec des méthodes stables un indicateur qui a un sens et quand on puisse interpréter les évolutions. C'est tout ce qu'on demande. Malheureusement, l'INSEE n'arrête pas de vouloir perfectionner, entre guillemets, ces outils et donc introduire une instabilité permanente dans les méthodes et dans les modes de calcul.
Juste pour rajouter par rapport à votre question sur le sens de notre participation au groupe de travail. Il y a eu tout un débat au début parce que dans le mandat du groupe de travail, il n'y avait justement pas cette question de l'emploi inadéquat, etc. Et nous, on pensait que c'était une des questions essentielles puisque on finit, bon, avec toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, par avoir un taux de chômage, par avoir un taux de sous-emploi, mais toujours rien sur les mauvais emplois. Et donc si on a accepté de participer à ce groupe, c'est parce qu'on pensait que le mandat était changé pour introduire une possibilité d'évoquer cette question. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec la réponse dans le rapport, qui est de dire, effectivement, cette question a été à la marge du mandat du groupe, et donc on ne l'a pas traité, grosso modo. Hein. Donc on est très déçu. Oui. S'il n'y a rien sur l'emploi à bas salaire, c'est là le... si j'ai brisé l'embargo, c'est ça. La justification, enfin une justification qui a longtemps été avancée dans le groupe de travail, je dirais, qui est peut-être reprise dans le rapport définitif, c'est de dire que c'était à la marge du mandat du groupe. Et on se retrouve avec cette situation, si vous voulez, tout à fait paradoxale, c'est qu'il y a eu il y a quelques années un groupe de travail sur le niveau de vie, sur les revenus, si vous voulez, où la même question a été posée par d'autres acteurs, en l'occurrence la majorité derrière ces inégalités. On nous a dit ça, c'est pas une question qui concerne la mesure de revenus, c'est la question de l'emploi. Bon. Et quelques années plus tard, on a un autre groupe de travail spécifique sur la mesure de l'emploi, et on nous dit, mais non, ça c'est pas de l'emploi. C'est... Donc il y a un no man's land où on a l'impression que... Alors effectivement, il faut espérer qu'il y aura un troisième groupe de travail qui précisément ceci dit roi sur ce gros non-avancement quand même qui, entre l'emploi par emploi et le salaire qui n'est plus vraiment un salaire, qui essaiera de proposer des choses pour qu'enfin on ait des indicateurs sur ces emplois à bas salaire, inadéquats, etc. Voilà, c'était...
Vous vouliez précisément, votre demande, c'était un indicateur
Oui, les bas salaires.
Un indicateur de quoi, qui aurait mesuré quoi par rapport à quoi, enfin, c'est un ratio, mais de ce qu'on aurait mesuré.
Oui, les bas salaires, c'est-à-dire la proportion de bas salaires dans les emplois, la proportion d'emplois... déclassés, enfin de personnes déclassées par rapport à leur qualification, et la proportion de personnes qui ont un emploi insoutenable, c'est-à-dire un emploi qui détruit leur santé. Et ça, on a fait des propositions concrètes pour construire des indicateurs dans ce sens-là. Et on nous a répondu, alors la réponse qu'on nous a opposée, je pense qu'elle est encore dans le rapport final, c'est que ça n'a pas un rapport direct avec le fonctionnement du marché du travail. Vous verrez, c'est la réponse officielle qu'on nous a faite. Le groupe s'occupe chômage, précarité, donc fonctionnement du marché du travail, et ces questions de bas salaire, de conditions de travail et de déclassement n'auraient pas de rapport direct avec le fonctionnement du marché du travail. Alors, c'est quand même une aimable plaisanterie, parce qu'on n'arrête pas de parler de difficultés de recrutement, de salariés qui démissionnent, d'emplois que les salariés ne veulent pas accepter. Évidemment, ça a un rapport avec la qualité de ces emplois, mais non. Non, on nous dit non, ça n'a pas de rapport avec la qualité des emplois. La qualité des emplois, ça n'est pas en rapport direct avec le fonctionnement du marché du travail. C'est totalement aberrant. Et l'argument officiel que le groupe, que Jean-Baptiste de Foucault nous a opposé pour dire on ne prendra pas en considération ces aspects.
Alors, est-ce que je peux ajouter une dernière question plus positive? Monsieur de Foucault, il est maintenant administrateur. L'opposition.
Ce qui est bien, c'est que vous avez réussi dans toute la salle à poser les questions qui permettent de faire des transitions. Donc je vais passer la parole à Sylvia Duzan-Choma, pardon, du SNU à NPE.
Voilà, et j'aimerais bien savoir si vous êtes de ce que vous avez vu dans votre travail. Vous êtes déçu, vous êtes confiant, c'est quoi la couleur,
confiance.
Par rapport à quoi? Par rapport au nouvel organisme fusionné?
Non, mais par rapport à la situation. Du coup, c'est un peu la pression sociale de ce grand nouveau.
Bah, on est clairement déçus. Hein,
bah, oui, c'est clair.